décryptage.
Anne Cantner.
Les débats sont entrés dans le vif du sujet aujourd'hui à l'Assemblée nationale en France. Au programme, la loi de bioéthique dont plusieurs points sont très controversés. Le projet de loi proposé par le gouvernement prévoit d'étendre la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Il prévoit également de lever en partie l'anonymat des donneurs de sperme, de permettre aux femmes de faire congeler leurs ovocytes en vue de futures grossesses ou encore de faciliter les recherches sur les cellules souches des embryons et de modifier les conditions de don pour les greffes d'organes. S'agit-il d'une chance et d'un privilège pour la France, comme l'a affirmé hier la ministre de la Santé? Que peut changer ce projet de loi de bioéthique? Bienvenue dans Décryptage. Pour nous aider à y voir plus clair, deux invités ce soir, Lou Bémond de Senneville, journaliste en charge des questions de bioéthique au quotidien La Croix. Vous êtes également l'auteur, avec le philosophe Martin Stephens, du livre « Si c'était la fin d'un monde » qui paraîtra la semaine prochaine aux éditions Bayard. Bonsoir.
Bonsoir.
Et au téléphone, Sylvie Epelboin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, coordinatrice du Centre d'assistance médicale à la procréation à l'hôpital Bichat à Paris. Le projet de loi discuté en ce moment à l'Assemblée nationale comporte 32 articles. Il porte donc sur beaucoup d'autres sujets que l'extension de la PMA. Nous aurons l'occasion d'en parler, mais nous allons commencer par évoquer celui-ci. Pour rappel, la procréation médicalement assistée couvre notamment l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. Et le premier article du projet de loi qui ouvre donc la PMA à toutes les femmes est celui qui a suscité le plus grand nombre d'amendements, 630 sur les 2600 qui ont été déposés par les députés. Lou Bémond, que prévoit ce projet de loi concernant la procréation médicalement assistée?
Alors, le projet de loi qui est en cours d'examen en ce moment à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, prévoit d'étendre la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules et fait disparaître de la loi le critère d'infertilité médicalement constaté. Alors, pour bien comprendre le changement, il faut savoir qu'un couple aujourd'hui, la PMA est réservée à un couple homme-femme vivant, c'est-à-dire pas de PMA post-mortem, on pourra y revenir si vous voulez, et dont l'infertilité a été constatée médicalement, donc par des médecins.
Donc il faut qu'il y ait d'abord un médecin qui certifie que le couple est infertile et à ce moment-là, il peut engager une procédure de PMA.
C'est à la condition de la reconnaissance de ce critère d'infertilité qu'aujourd'hui, les couples hétérosexuels ont accès à la PMA et demain, si la loi est adoptée, ce critère va disparaître de la loi.
Alors, on parle d'extension de la PMA à toutes les femmes. Vous nous parliez de ce critère d'infertilité. Est-ce qu'il s'agit dans ce projet de loi d'étendre la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, ou bien réellement de la rendre accessible à toutes les femmes, c'est-à-dire aussi aux femmes qui pourraient être en couple hétérosexuel et dont l'infertilité n'aurait pas été constatée par un médecin?
Alors, en théorie, effectivement, les femmes qui sont en couple hétérosexuel et dont l'infertilité n'ont pas été constatée par un médecin auront aussi accès à la PMA si ce projet de loi est adopté en l'état. Puisque l'infertilité disparaît, le critère d'infertilité disparaît, il disparaît pour tout le monde. Donc les couples de femmes, les femmes seules et les couples hétérosexuels.
Aujourd'hui, les couples de femmes souhaitant avoir un enfant se rendent souvent à l'étranger, car dans certains des pays voisins de la France, la législation est plus souple. Sylvie Epelboin, quelle est la situation dans les autres pays d'Europe?
Dans les autres pays d'Europe, il y a donc un certain nombre de pays qui accueillent tout à fait les couples de femmes, d'autres qui vont accueillir uniquement les couples de femmes, mais pas les femmes seules. Et puis, il y en a qui ont le même comportement vis-à-vis du critère d'infertilité et du couple hétérosexuel. Alors, pour être plus clair, l'Allemagne et la Suisse limitent l'accès à l'AMP aux couples de personnes de sexe différent et pour cause d'infertilité. En Italie, les célibataires n'ont pas accès à l'AMP avec don, l'AMP égale la PMA. Et puis, il n'y a pas de limitation légale au recours à la procréation assistée au Royaume-Uni et en Belgique. Et, à ma connaissance, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne vont ouvrir les techniques de procréation assistée, donc de PMA, à la fois aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Donc, vous voyez qu'il y a, même au niveau de l'Europe, une hétérogénéité de prise de position sociétale qui est extraordinaire.
Lou Bémon, est-ce que ces différences entre les différents pays européens respectent une fracture entre les pays qui seraient historiquement plutôt catholiques et les pays qui seraient plutôt protestants ?
Pas nécessairement, parce que l'Espagne, qui est quand même historiquement catholique, est l'un des pays qui a ouvert, qui a étendu la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, qui permet aussi aux centres privés à but lucratif d'exercer cette activité. Donc on peut dire que c'est une extension voilà, qui est encore plus large que celle qui est prévue dans le projet de loi, parce qu'à ce stade, ce qui est prévu, c'est l'extension... notamment au centre public et au centre à but non lucratif, excusez-moi. Donc voilà, il y a pas nécessairement de fracture en fonction de la religion. Chaque pays porte son histoire, chaque société porte son histoire. Il y a aussi une capacité en France, et ça je pense que c'est une spécificité française, à se saisir de ces débats, à se saisir de ces débats de bioéthique et à en parler longuement. Voilà, ce qui n'est pas nécessairement... le cas dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni et en Belgique, où ces réformes sociétales ne font pas autant de bruit en réalité.
D'ailleurs, les discussions en cours à l'Assemblée nationale pourraient durer jusqu'au 9 octobre. Dans les cas qui sont concernés par ce projet de loi, c'est-à-dire les couples de femmes et les femmes célibataires, il faut nécessairement un donneur. Sylvie Eppelboin, comment fonctionne le don de sperme aujourd'hui en France ?
Si vous me permettez, je voulais rajouter quelque chose sur ce que disait fort bien Lou Bémon.
Je vous en prie.
Cette revendication de liberté et d'égalité dans l'accès aux techniques de PMA, je crois que toutes nos instances, le Conseil national d'éthique, le Conseil d'État, l'Office parlementaire qui ont débattu avant que les députés ne s'emparent du projet, l'ont reconnu. Et après, la question, c'est la reconnaissance de cette autonomie doit être mise face à la relation de l'enfant dans cette nouvelle structure familiale, et c'est quand même ça qui a animé les débats. Pardon, j'ai voulu vous répondre avant de...
Non, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Ma question suivante portait sur le fonctionnement du don de sperme aujourd'hui en France. Comment ça se passe ?
Alors, le fonctionnement du don de sperme, effectivement, à l'heure actuelle, comme toutes les techniques de procréation assistée, concerne les couples hétérosexuels à l'heure actuelle et sous la couverture des deux principes fondamentaux éthiques qui sont les nôtres, c'est l'anonymat et la gratuité. Donc la gratuité n'est pas mise en cause.
Et, donc le don de sperme ne peut pas être rémunéré ?
Le don de sperme ne peut pas être rémunéré, mais c'est vrai que les professionnels, comme les autres couches de la société, s'interrogent sur ce que pourrait être une marchandisation qui ne serait pas faite chez nous, mais un appel à la marchandisation. Ce sont des ressources rares. Donc l'ouverture de l'AMP qui est dans un but d'égalité et aussi pour essayer que les femmes n'aillent pas à l'étranger pour trouver des spermatozoïdes de donneurs, pourrait conduire, et c'est un des scénarios que chacun va chercher à éviter, à ce que l'ensemble des couples hétérosexuels ou homosexuels ou les femmes seules soient, par une espèce d'effet domino, poussés à nouveau, à contrario, à aller à l'étranger pour un manque de ressources qui serait lié à la fois à un excès de demande, quoique toutes les évaluations font penser que cet excès ne serait pas énorme, mais aussi probablement une période de transition où la levée de l'anonymat possible auquel doit consentir le futur donneur va probablement faire un changement de mentalité et peut-être une baisse des donneurs, au moins pendant un certain temps, le temps de l'explication.
Oui, parce que c'est l'autre principe fondamental dont vous nous parliez jusqu'à présent, l'anonymat du don. Lou Bémon, qu'est-ce qui va changer si le projet de loi du gouvernement est adopté ?
Alors, ce qui change dans ce projet de loi par rapport à l'anonymat, c'est un point assez fondamental par rapport au principe des lois de bioéthique qui ont été gravées dans le marbre de la loi en France en 1994. C'est que le donneur de gamètes, en l'occurrence le donneur de sperme ou la donneuse d'ovocytes, devra désormais donner son consentement au dévoilement de son identité si l'enfant qui naît de ce don, de sperme ou d'ovocytes, réclament cet accès 18 ans plus tard.
Ça, c'est obligatoire ou c'est soumis à l'approbation du donneur ou de la donneuse ?
Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'un donneur, il y a eu des débats assez longs dans la préparation de ce projet de loi pour savoir s'il fallait laisser cette possibilité de manière facultative ou non. Et Agnès Buzyn, qui a piloté cette partie du projet de loi, a tranché. Et donc le dispositif qui est proposé aujourd'hui, c'est que si le donneur ne consent pas à la levée de son anonymat à la demande de l'enfant, donc 18 ans plus tard, ça n'arrivera pas forcément. Mais en tout cas, s'il ne consent pas à cette levée éventuelle, il ne pourra pas donner son sperme.
Alors, si je puis me permettre, l'une des craintes qui est exprimée concernant ce projet de loi, c'est que cette levée de l'anonymat risque de faire baisser le nombre de donneurs. Sylvie Eppelboin, est-ce que vous partagez cette inquiétude ?
Il y a des avis extrêmement différents. C'est une anticipation et personnellement, je ne travaille dans un centre de fécondation in vitro et pas dans un séco. Je n'ai pas une opinion qui est la plus légitime. Ce que je dirais, c'est qu'il y a vraiment deux concepts à travailler. Le premier, c'est que bon, de toute façon, il y avait une nécessité d'évolution qui est certaine et que tout le monde reconnaît. Il y a des adolescents, des jeunes adultes qui réclament un certain nombre de données et d'autres non. Et il fallait qu'il y ait une ouverture. Mais la problématique, c'est que le premier point, c'est une ouverture pour tous à des données non identifiantes, c'est-à-dire savoir un certain nombre de choses sur le donneur, mais qui ne permet pas de retrouver le donneur. Et puis le deuxième point, et c'est celui-là qui peut faire chuter, selon la question que vous me posiez, le nombre de donneurs, c'est la possibilité pour un adolescent à sa majorité de réclamer l'identité du père à condition qu'il y ait consenti. Ce qui est très rassurant, c'est que ça ne va plus se régler dans les centres de fécondation in vitro et dans les sécos, mais que c'est une question qui va être centralisée, à la fois les demandes au niveau de l'Agence de la biomédecine, qui gère l'ensemble des activités de procréation assistée en France, mais également par le Conseil de droit d'accès aux origines, qui joue déjà un rôle certain dans toutes les naissances sous X et qui va être celui qui va être l'intermédiaire entre le jeune adulte qui recherche ses origines génétiques et le donneur. Il faut aussi penser qu'il y a des aspects très positifs, notamment si une pathologie génétique se dévoile, c'est très important si ça se dévoile chez l'enfant que le donneur puisse être prévenu et inversement, si le donneur s'aperçoit qu'il a une maladie qui potentiellement pourrait être transmise à sa descendance, que par l'intermédiaire de ces organismes, sa descendance, qui n'est pas une descendance affective mais uniquement biologique, puisse également en avoir connaissance.
Donc il pourrait y avoir une portée médicale. Je précise pour nos auditeurs que les sécos que vous mentionniez, ce sont les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme.
Bien sûr, pardonnez-moi.
Décryptage sur RFI. Anne Contner.
Un certain nombre d'amendements au projet de cette loi bioéthique portée par le gouvernement français concerne le diagnostic pré-implantatoire. Alors de quoi s'agit-il ? C'est un test en fait effectué après une fécondation in vitro, donc après avoir associé le sperme à l'ovocyte prélevé chez la femme. C'est à ce moment que se forment les embryons et le diagnostic pré-implantatoire permet de repérer dès cette étape certaines anomalies qui pourraient entraîner plus tard une fausse couche ou bien une interruption de grossesse. Que prévoit la loi aujourd'hui, Lou Bémont, et qu'est-ce qui pourrait changer ?
Alors aujourd'hui, la loi, elle prévoit de détecter un certain nombre d'anomalies sur l'embryon, en particulier pour des parents qui auraient recouru à cette fécondation in vitro pour des raisons médicales, c'est-à-dire des antécédents de maladies. Et donc, les médecins identifient qu'il y a un risque et donc recourent à cette technique. Aujourd'hui, la loi, elle autorise un certain nombre de recherches sur cet embryon qui va être implanté, mais elle interdit de rechercher les malformations chromosomiques et donc notamment les trisomies, en particulier la trisomie 21. Le projet de loi...
C'est un test qui est effectué plus tard au cours de la grossesse.
Absolument, c'est un test, le test de la trisomie 21, qui est effectué au cours du diagnostic prénatal, c'est-à-dire quand la femme est enceinte, soit par une prise de sang, depuis assez récemment, soit classiquement avec des tests d'échographie. Ce qui est prévu par le projet de loi, en fait, en termes de diagnostic préimplantatoire, c'est rien du tout. Mais il y a un certain nombre d'amendements de députés, en particulier de la gauche de l'hémicycle et de la gauche de La République En Marche, le parti présidentiel, qui proposent d'étendre ce diagnostic préimplantatoire à la détection de la trisomie, de plusieurs trisomies, en particulier de la trisomie 21.
Alors, sur ce point, le gouvernement, vous le disiez, est assez réservé, puisque...
Il est même opposé.
Même opposé, c'est ce qu'a expliqué la ministre de la Santé il y a un peu plus de deux semaines. Elle a considéré qu'il s'agissait d'une dérive. En fait, les détracteurs d'un élargissement de ces tests, de ces diagnostics préimplantatoires, évoquent un risque d'eugénisme, un risque de sélection. Sylvie Eppelboin, pensez-vous qu'il faille assouplir la loi concernant ces diagnostics ?
Moi, je pense, comme beaucoup d'autres professionnels, effectivement, qu'il faut assouplir la loi. L'information complémentaire que je voudrais apporter, c'est que il y a à peu près 20% des fécondations in vitro, donc à l'origine d'embryons, qui sont faites en France et à l'international chez des femmes de 40 ans et plus, chez qui le risque d'anomalie embryonnaire des embryons qui, en raison du vieillissement des ovules des femmes qui malheureusement se fait relativement tôt, sont porteurs d'anomalies empêchant l'embryon d'évoluer. Environ 20% des FIV en France sont faites dans ces cas-là, donc chez des femmes qui n'auront jamais de succès ou extrêmement peu. Le taux de succès des fécondations in vitro à 40 ans en termes de naissance vivante est à 6% environ. Et donc, c'est la seule chose qui intéresse les femmes. Donc, il y a beaucoup plus de taux de grossesse, mais il y a des embryons qui vont s'arrêter en route et il y a ultérieurement des fausses couches. Donc, la loi, dès à présent, est extrêmement bien faite pour autoriser le diagnostic prénatal et permettre aux femmes, si elles le choisissent, d'interrompre une grossesse qui indiquerait que l'enfant est porteur d'une trisomie. Donc, il semble à beaucoup de professionnels, dont moi, qu'il y ait une cohérence à faire ce diagnostic sur l'embryon, ce qui évite aux femmes la souffrance d'une fausse couche, ce qui permet d'offrir aux femmes infertiles la possibilité d'avoir une grossesse qui se termine par une naissance heureuse. Donc ça fait énormément d'arguments et depuis qu'existe la loi de bioéthique, on a montré qu'en France, un cadre de loi tel que le nôtre était capable d'éviter des dérives. Donc on ne voit pas pourquoi brusquement il y aurait chez nous des dérives sur ce point-là, alors qu'il n'y en a pas sur le diagnostic prénatal. Je vous rappelle que pour le diagnostic prénatal, s'il y a des soucis, il y a des centres de réflexion pluridisciplinaires, comme nous avons des centres de réflexion pluridisciplinaires dans les centres de fécondation in vitro, de procréation médicalement assistée. Donc l'inquiétude est outrancière, à mon avis.
Alors, ce projet de loi dont nous parlons depuis quasiment 20 minutes maintenant soulève aussi des interrogations sur la filiation. Lou Bémont, comment l'état civil des enfants nés par PMA dans des familles homoparentales sera-t-il établi ?
Alors, en fait, l'enjeu du législateur, c'est qu'une fois qu'il aura reconnu et qu'il aura permis aux couples de femmes d'avoir des enfants, donc à un enfant d'avoir deux mères, il lui faut inventer un mode de filiation nouveau pour que ses enfants puissent avoir deux mères, parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, il y a eu un très long débat, et la solution qui est proposée par Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, c'est qu'un couple de femmes aille voir un notaire et reconnaisse l'enfant de manière anticipée, donc avant sa naissance, et avec la reconnaissance que le notaire aura établie, une fois que l'enfant est né, le couple va voir l'officier d'état civil à la mairie au moment de la reconnaissance. Et c'est avec ce document que l'enfant est reconnu et que les deux femmes sont reconnues comme mères. Alors le changement, c'est que c'est la volonté qui fonde la filiation et non plus uniquement l'accouchement. Donc c'est un changement assez important en droit français.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Lou Bémont de Senneville, journaliste à La Croix. Je rappelle que votre livre, Si c'était la fin d'un monde, coécrit avec le philosophe Martin Stephen, sortira la semaine prochaine en France. Et le docteur Sylvie Eppelboin, coordinatrice du Centre d'assistance médicale à la procréation à l'hôpital Bichat à Paris. Décryptage était réalisé ce soir par Claude Battista, attaché de production Éléonore Krenik, rédaction en chef Jacques Alix. Très bonne soirée à tous et à demain.